C'est les deux textes liturgiques pour cette fête de Saint Pierre et Saint Paul. L'épître est tirée des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit mourir par le glaive Jacques, frère de Jean, et voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. On était au jour des azymes. L'ayant donc fait arrêter, il le mit en prison sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé en prison, et l'Église adressait sans interruption des prières à Dieu pour lui. Or la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans le cachot, et l'ange, touchant Pierre au côté, l'éveilla et lui dit « Levez-vous vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mettez votre chaussure et chaussez vos sandales, ce qu'il fit. Et l'ange reprit, enveloppez-vous de votre vêtement et suivez-moi. Pierre sortit et le suivait. Il ne se rendait pas compte de ce qui se faisait, car l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Passant le premier et le second poste de garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne accès à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, puis soudain l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui-même, dit « Maintenant je sais que véritablement le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché à la main d'Hérode et à toute la tente du peuple juif. » On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe et il interrogeait ses disciples en disant « Qui dit-on qu'est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que c'est Jésus, que c'est Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Saint-Pierre, prenant la parole, dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es heureux, vous êtes heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je vous dis que vous êtes Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je vous donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Donc à la fin de la messe, nous chanterons le dans les feuilles de chant notre âme de pour ma mère de l'espérance. Pour les retraites, donc attention, je suis plein pour la retraite du mois de septembre. Par contre, j'ai encore des places pour la retraite du mois d'octobre, du 18 octobre au 23 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans les saints évangiles quelques phrases clés qui me touche au plus haut point. Parfois, c'est des phrases très courtes. Une des phrases, par exemple, c'est, je l'utiliserai pour un prochain sermon, « Rends compte de ta gestion. » Parce que ça, c'est une phrase qui me parle. On aura tous un jour à entendre cette parole, le jour de notre mort. « Rends compte de ta gestion. » Et dans l'évangile du dimanche, que je dirai à la fin de la messe, puisque aujourd'hui c'est la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul avec mémoire du 6e dimanche après la Pentecôte. Dans l'évangile du dimanche, il y a une phrase extraordinaire. Miseror super turbam. J'ai pitié de cette foule. Notre Seigneur Jésus-Christ prêche depuis 3 jours. Et il y a 4000 personnes qui le suivent. Il va tous les nourrir avec 7 petits pains. Et il dit, j'ai pitié de cette foule. Parce que je vois que ces gens me suivent depuis plusieurs jours, et j'ai peur de les renvoyer pour qu'ils aillent chercher la nourriture, j'ai peur qu'ils ne défaillent en chemin. C'est là où on voit l'extraordinaire miséricorde du bon Dieu pour nous. Dieu pourrait se dire, moi je m'occupe des choses spirituelles, hein, je suis le bon Dieu, et puis les choses temporelles, bon, qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent faire leurs courses. Non. Le bon Dieu s'occupe aussi des choses temporelles. Et c'est une chose à ne pas oublier aujourd'hui par les temps qui courent. Le bon Dieu s'occupe des choses spirituelles d'abord parce que c'est le plus important, mais il s'occupe aussi des choses temporelles. Alors on peut se poser la question, mais comment le bon Dieu, justement, notre Seigneur Jésus-Christ, va-t-il manifester cette pitié, cette miséricorde à notre égard? Miséricorde superturbam, j'ai pitié de cette foule. Comment est-ce que notre Seigneur manifeste sa pitié? Et c'est là où on retrouve la fête d'aujourd'hui, la grande fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, donc avec la messe au 29 juin. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa pitié pour nous par l'institution de l'Église et par les deux premières choses qu'on va trouver dans l'Église, la Sainte Messe et la papauté. Et c'est très intéressant de voir comment les pères de l'Église en parlent. On a tendance à dire, et c'est vrai d'un certain côté, que la fondation de l'Église, c'est la fête de la Pentecôte. En fait, les pères de l'Église, c'est pas ce qu'ils disent. Vous savez quand est-ce que les pères de l'Église placent la fondation de l'Église? Avec la création d'Adam et Ève. Et donc, comme exemple, la création d'Ève. La première Ève qui sort du côté d'Adam et Ève. D'Adam plutôt. Donc Adam est le premier homme créé par Dieu. Et Dieu va lui créer une compagne. Il va lui ouvrir le côté, le plonger dans un profond sommeil, et ouvrir son côté. Et du côté d'Adam, il va sortir la première femme, Ève. La première Ève qui va être le symbole de la deuxième Ève. La deuxième Ève, c'est l'Église. Et saint Thomas d'Aquin a des commentaires magnifiques sur ce sujet. Il explique que notre Seigneur Jésus-Christ est allé chercher Ève du côté d'Adam, pas des pieds. Parce que si Ève avait été tirée du pied d'Adam, alors elle aurait peut-être eu la tentation d'écrabouiller sa femme par ses pieds. Il n'a pas tiré la première Ève du cerveau d'Adam. Parce que s'il l'avait fait, peut-être qu'Ève aurait pu se croire plus intelligente et vouloir dominer la famille. Il a tiré du côté du cœur, dit saint Thomas. Du côté du cœur, justement, parce que la femme, l'épouse, est le cœur de la famille. On peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir qu'est-ce qui est plus important, un cerveau ou un cœur. Mais m'est avis que les deux sont nécessaires pour qu'il y ait une vie humaine. Et les pères de l'Église expliquent, on va retrouver le même symbole, la création de l'Église, de nouveau, avec l'arche de Noé. Le bon Dieu, voyant que les gens ont eu dans le péché jusqu'au cou, envoie un déluge pour purifier le monde. Et dans cette arche construite par Adam, par Noé, il va mettre 8 personnes. Noé, sa femme, leurs 3 enfants, Sem, Cam et Japhet, leurs épouses. Et il va ouvrir la porte de l'arche. D'abord, il va envoyer le corbeau qui va revenir parce qu'il n'a pas trouvé un point sec pour poser ses pattes. Puis ensuite, la colombe qui va revenir au bout d'un certain temps avec un rameau d'olivier. Et les pères de l'Église expliquent, cette arche, c'est l'Église qui vogue au-dessus du monde. Et la porte qui s'ouvre sur le côté, c'est le symbole d'un troisième point très important. Ève, l'arche et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va ouvrir son côté au sommet de la croix le vendredi saint après avoir donné sa vie pour nous. On pourrait croire qu'il a tout donné, il trouve le moyen de donner encore quelque chose. Il ouvre le Sacré-Cœur. Ce Sacré-Cœur est ouvert par la lance de Saint Longin. Et de ce Sacré-Cœur vont sortir le sang et l'eau. Le sang des sacrifices de la messe, l'eau du baptême. L'eau pour purifier, le sang pour fortifier, nous disent les pères de l'Église. Et donc on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pitié de nous, miséreor superturbam, j'ai pitié de cette foule, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va nous fonder l'Église. Et c'est tout le texte magnifique d'aujourd'hui qu'on trouve dans Saint Matthieu au chapitre 16. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, contre cette église. Et tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Dieu qui dit à Saint-Pierre, J'obéirai à ce que vous demandez. Si sur la terre vous pardonnez les péchés, je pardonnerai au ciel. Si sur la terre vous refusez de pardonner le péché parce que telle personne n'a pas les bonnes conditions pour pouvoir se confesser, par exemple parce qu'il garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, vous refusez l'absolution, je la refuserai aussi au ciel. C'est là où on voit l'extraordinaire puissance, mes bien chers frères, de l'Église catholique, qui est tout simplement Dieu continué ici-bas sur la terre. C'est pour ça qu'on dit que l'Église catholique est le corps mystique du Christ. Évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à comprendre ces choses-là, parce qu'on est tellement écœuré par, je dirais, les hommes d'Église, la plupart des hommes d'Église, dans l'Église de Vatican II, qu'on a tendance à oublier la grandeur de l'Église catholique, qui est divine par son institution même. Les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y aurait des millions de catholiques. Hein. En fait, il a dit le contraire. À la fin des temps, lorsque je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi sur la terre. Alors, je voudrais un petit peu insister là-dessus pour nous rappeler l'importance de ces choses-là. L'Église, la messe et la papauté. Je voudrais surtout parler du troisième point, puisque c'est aujourd'hui la fête, la solennité de la fête du premier pape, Saint-Pierre. Saint-Pierre va devenir pape. Au moment où notre Seigneur prononce ses paroles, il n'est pas encore. Puisqu'il va recevoir ce privilège extraordinaire de l'infaillibilité qu'après la résurrection de notre Seigneur. Juste après la pêche miraculeuse, notre Seigneur, vous le savez, va prendre Saint-Pierre à part et va lui dire « Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que cela ?» Il va faire répéter 3 fois « Pierre », un acte d'amour pour rattraper les 3 chutes de Saint-Pierre. C'est à ce moment-là que Saint-Pierre reçoit ce privilège extraordinaire de l'infaillibilité pontificale. Et aujourd'hui, il faut expliquer ces choses-là. Pourquoi ? Parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Donc il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ donna à Saint-Pierre un privilège extraordinaire de l'infaillibilité. Et ce privilège de l'infaillibilité est un dogme de la foi catholique, mes bien chers frères. Il a été défini par le pape Pie IX, un des plus grands papes de l'Église catholique, en 1870, le Concile Vatican I, qui a été interrompu par la Révolution d'Italie. Mais toute une partie des décrets avait déjà été faits. Et donc, ont été reconnus par le pape Pie IX, et donc font partie du magistère de l'Église. Et l'infaillibilité pontificale est donc un dogme de la foi catholique. Ça veut dire que si je n'accepte pas l'infaillibilité pontificale, je ne suis pas catholique purement et simplement. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, monsieur l'abbé, je ne peux plus parler d'infaillibilité pontificale. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut en parler. Alors, rappelons-nous, pourquoi ? Est-ce que le bon Dieu, et comment le bon Dieu justement a-t-il manifesté son amour pour nous par la papauté? Il a voulu que Saint-Pierre et tous les papes légitimes qui l'ont suivi, jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958, il a voulu que Saint-Pierre, que le pape soit le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire vicaire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire successeur et représentant. Des choses qu'on connaît bien, mais il faut bien répéter ces choses-là, pour que les choses rentrent bien dans la cervelle. Saint-Pierre, et le pape, est successeur de Saint-Pierre. Attention, il n'est pas successeur de notre Seigneur. Et si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, ça voudrait dire que le pape est infaillible chaque fois qu'il ouvre la bouche, ce qui est faux. Et donc, le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Point final. Le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint-Jean. Donc le rôle du pape, ici il se tient, le rôle du pape c'est donc de garder le dépôt de la foi catholique. Donc la foi catholique n'appartient pas au pape, le pape a pour rôle simplement de garder ce dépôt de la foi. Et c'est pour cela, pour qu'il puisse remplir ce rôle extraordinaire que Dieu lui a conféré, le don de l'infaillibilité. Alors attention, il ne faut pas comprendre de travers. Il y a 2 erreurs à éviter. Première erreur, de dire... Bon, puisque le pape est infaillible, donc il est infaillible chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est faux. Deuxième erreur à éviter, en disant on ne peut pas suivre le pape, puisque les papes ont dit des erreurs en matière de dogme. Donc comment répondre à ces objections? Par les textes, mes bien chers frères. Les textes officiels de l'Église catholique, Vatican I, la Constitution Pastor Eternus, Dei Filius aussi, de Constitution du Pape Pie IX, 1870, qui rappelle des choses essentielles qu'il faut répéter aujourd'hui à temps et à contre-temps pour que ça rentre dans les cervelles, parce que c'est une protection extraordinaire pour nous. Le pape Pie IX explique que l'infaillibilité ne s'exerce que si le pape parle en tant que pape, sur la foi et les mœurs, l'intention d'obliger toute l'Église. Quatre conditions. Et le pape explique, à la suite de ça, deuxième chose extrêmement importante qu'on oublie constamment, ce sont les cas dans lesquels cette infaillibilité peut s'exercer. Le pape peut être infaillible dans deux conditions. Soit quand il parle comme pape seul, ce qu'on appelle le magistère pontifical, le magistère du pontife, du pape. Soit cette infaillibilité peut s'exercer aussi dans son magistère universel, c'est-à-dire quand avec tous les évêques unis à lui, il rappelle de façon ordinaire ou extraordinaire l'enseignement de l'Église. Ainsi, le pape est infaillible en quatre domaines, quatre cas. Premièrement, dans son magistère pontifical ordinaire. Deuxièmement, dans son magistère pontifical extraordinaire. Troisièmement, dans son magistère universel ordinaire. Et quatrièmement, dans son magistère universel extraordinaire. Alors, si on connaît bien ces textes, on peut répondre à toutes les bêtises qu'on entend sur le sujet, surtout dans les milieux traditionnalistes. Les plus grosses bêtises sur l'infaillibilité, je les ai entendues dans les milieux de la tradition. Dans les milieux modernistes, ils n'y croient pas du tout, c'est tout réglé. Mais dans les milieux de la tradition, on entend des erreurs énormes sur le sujet. Une erreur très fréquente qu'on entend, qui est un sophisme, consiste à dire le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais c'est incomplet. Ce qu'on appelle un sophisme. Quand je dis le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire, je dis quelque chose qui est vrai, mais je sous-entends que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Ce qui est faux. Le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel. C'est ce qu'enseigne le pape Pie IX en 1870, de façon infaillible. Donc, première erreur, de dire qu'extraordinaire, ça correspond à infaillible. C'est faux. Extraordinaire, l'infaillibilité s'exerce aussi dans le magistère ordinaire de l'Église. Et ceux qui disent la fraternité Saint-Pélis, c'est comme ça, c'est terrible. L'immense majorité des prêtres de la fraternité enseignent que l'infaillibilité de l'Église pour le magistère ordinaire universel. Et donc, ils vont vous dire, infaillible, ça veut dire extraordinaire. Infaillible, ça veut dire définition. Donc, le pape n'est infaillible que lorsqu'il définit quelque chose. Ils vont vous dire, la bouche en cœur, le dernier pape qui a défini quelque chose, c'est le pape Pie XII en 1950, quand il a défini le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Mais ce qu'il cache, et ça c'est gravissime, c'est que le pape Pie IX enseigne que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel, ce qui est nié par la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Extraordinaire veut dire, effectivement, définition solennelle. Mais ordinaire, ça n'a rien à voir avec définition. Par définition, justement, un dogme de foi, par exemple, c'est le magistère extraordinaire. Mais puisque le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel, il est aussi infaillible lorsqu'il ne définit pas quelque chose, mais qu'il rappelle tout simplement ce que l'Église catholique a toujours enseigné, parce que son rôle, c'est de garder le dépôt de la foi. C'est fondamental à comprendre ces choses-là. Une fois qu'on a compris ça, on retrouve la paix. Et nier justement que le pape puisse être infaillible en matière ordinaire, c'est gravissime. Parce que si je dis que le pape n'est infaillible que dans le magistère extraordinaire lorsqu'il définit quelque chose, c'est très facile, c'est très pratique, parce que ça permet de dire le pape est infaillible une fois tous les deux siècles, ou tous les 150 ans quand il définit un dogme, et tout le reste du temps je peux faire ce que je veux avec ce qu'il dit. C'est pas ce qu'enseigne l'Église, c'est pas du tout ce qu'enseigne le pape Pie IX. Parce que le pape Pie IX a voulu déclarer le dogme de foi, de l'infaillibilité pontificale. Il a fait ce que les papes font. Il a pris conseil. Il a pris conseil auprès des premiers conseillers de l'Église. Les conseillers du pape sont les cardinaux. Il a pris conseil auprès des cardinaux et tous les évêques, en expliquant son intention de définir l'infaillibilité pontificale. Évidemment, ça n'a pas raté toute une série d'évêques qui étaient très opposés, évidemment en France, à cause du gallicanisme. Tout ça centré autour d'un évêque extrêmement libéral qui s'appelait Monseigneur Dupanloup, qui était évêque d'Orléans. Il a regroupé un certain nombre d'évêques autour de lui et ils sont opposés à la définition qui allait arriver de Pie IX en disant: c'est pas possible, vous ne pouvez pas définir l'infaillibilité pontificale parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des tas de papes qui ont raconté des bêtises en matière de foi. C'est une objection très forte. Si effectivement un pape parlant comme pape avec l'intention d'obliger toute l'Église dans l'histoire de l'Église une seule fois avait expliqué, avait enseigné quelque chose qui allait contre la foi, on ne pouvait pas définir l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qu'a fait le pape? Il a demandé à un grand historien, l'abbé, le père Clément, le père Constant, pardon, le père Constant, et il lui a ouvert tous les documents à Rome, toutes les bibliothèques de Rome. Alors vous allez faire une enquête pour vérifier que tous les cas dans l'histoire de l'Église pour lesquels on accuse le pape d'avoir raconté des bêtises en matière de foi, de faire une étude là-dessus, à fond. Et si on peut prouver une seule erreur d'un pape dans l'histoire de l'Église, depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie IX, si on doit autant de Pie IX, un seul cas d'un prêtre, d'un pape, pardon, qui a raconté des bêtises en matière de foi en enseignant comme pape, je ne déclarerai pas l'infaillibilité pontificale. Et le père Constant s'est mis au travail. Il a pondu un livre extrêmement important, deux volumes que j'ai lus. La conclusion est claire. Il n'y a pas un seul cas dans toute l'histoire de l'Église d'un pape qui, comme pape, a enseigné l'erreur en matière de foi. Et il dit à chaque fois, ce sont des calomnies qui viennent des protestants, des ariens ou des modernistes de l'époque. Le pape a donc défini en 1870 l'infaillibilité pontificale. Donc ça, c'est la deuxième erreur qu'on entend aussi très fréquemment, malheureusement encore une fois, dans la fraternité Saint-Pilice, de prêtres qui osent dire qu'il y a eu des papes qui se sont trompés en matière de foi. On ne peut pas dire ces choses-là parce que justement, Dieu, dans sa miséricorde, a protégé son Église. Et cette protection, bien expliquée par le pape Pie IX dans son magistère, doit être pour nous une consolation extraordinaire. Les conclusions sont très simples. Si vous acceptez ces textes de Pie IX, et n'importe qui peut aller vérifier sur Pie IX, je conseille tous ceux qui m'écoutent aussi sur Internet, qui ont des doutes là-dessus, allez tout simplement au texte. Allez chercher les textes de Vatican I pour les avoir sur Internet relativement facilement. Et vérifiez, et vous verrez que le pape Pie IX dit bien que le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire universel. À ce moment-là, on a une protection extraordinaire. Donc, conclusion de ce dogme de foi explicité par le pape Pie IX, est-il possible pour un pape, qui agit comme pape, d'enseigner sur la foi ou les mœurs une erreur? Dans son magistère extraordinaire, pontifical ou universel, dans son magistère ordinaire universel. Réponse, c'est impossible. Il n'est pas possible pour un pape, en matière de foi et de mœurs, quand il parle en tant que pape, avec les conditions que je viens de vous expliquer, d'enseigner une erreur en matière de foi et de mœurs. Oh, il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique et d'avoir fait 25 ans de théologie, de connaître la soteriologie de par cœur, pour voir que depuis 1958, les soi-disant papes racontent n'importe quoi. Alors, où l'Église s'est trompée pendant un siècle? Ou le pape Pie IX s'est trompé, ou, deuxième conclusion, c'est que ces personnes qui se prétendent pape depuis 1958, commencé par Jean XXIII, ne sont pas papes, tout simplement parce que le fait qu'ils enseignent des erreurs en tant que pape les exclut immédiatement de la papauté. Vous voyez, c'est important de connaître ces choses-là, parce qu'il n'y a pas besoin de se lancer dans des grandes discussions théologiques sur des choses qui ne sont pas certaines, comme est-il possible qu'un pape puisse dire des hérésies en tant que pape, qu'est-ce qui se passerait s'il le disait, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, comme on dit. Il faut prendre les textes, les textes infaillibles de l'Église. On est protégé par l'infaillibilité conférée par Pie IX. En fait, il ne faut pas croire non plus que l'Église catholique ne croit en l'infaillibilité pontificale que depuis Pie IX. L'Église catholique a toujours cru en l'infaillibilité pontificale, puisque le pape Pie IX ne peut pas inventer un nouveau dogme. Il doit prendre quelque chose qui est déjà dans le dépôt de la foi. Ah, mais bien, chers frères, mettons-nous sous la protection de la Très Sainte Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie, croyez-moi, elle n'a jamais eu le moindre doute, hein, sur la divinité de son Fils. Elle n'a jamais eu le moindre doute sur la divinité de l'Église catholique, même quand elle a vu Saint Pierre nier 3 fois qu'il connaissait notre Seigneur Jésus-Christ. Elle savait que l'Église catholique est infaillible et serait infaillible dans ce domaine par le pape, c'est le pape qui donne son infaillibilité. Eh bien, que le pape est infaillible et par cette infaillibilité protégerait l'Église. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous aide, qu'elle nous protège, pour que nous puissions justement, envers et contre tout, surtout aujourd'hui, conserver la foi et transmettre cette foi à nos enfants. C'est pas une, ça suffit pas d'avoir la foi. Il faut que nos enfants aient la foi. Alors, quand ils sont tout petits comme ça, ou relativement petits, il n'y a pas de problème. Ils obéissent. Et quand ils vont arriver à 18-20 ans, c'est une autre paire de manches. Et il faut que si vous reveniez me voir dans quelques années, vous ayez toujours la foi catholique, sinon je vous tirerai les oreilles moi-même. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et donc, il faut que les parents, justement, augmentent leurs convictions sur ces domaines pour pouvoir transmettre le fruit de leurs convictions à leurs enfants, aux futures générations. Alors nous demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vous mettre le ventilateur pour vous mouiller pas de chaud quand même. Chanter le credo numéro 3. Donc je chante la premier verset, ensuite on répond, on change à chaque fois.
Sanctum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Padre Filio qui procedit.
Qui cum Pater et Filio
simulator et cum glorificatur qui locutus est perpetuo fetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
confiteo unum baptista
in remissio del peccato
et expecto resurrectionem mortuorum
per vitam venturi seculi.
So scipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui ad utilitatem quoque nostram tutiosque ecclesiae sue sancte.
et omnia secula seculorum.
Amen.
Domino vobiscum,
ecum spiritu tuo,
sum comoda.
Ave.
Te Domine subiscite ex orare ut regem tuum, vaso aeterne non deseos, sed per beatos apostolos tuos continuo, protectione custodias. Ut ise maectoribus en gomene tu, quos operis tui vicarios eidem contulisti, esse pastores, et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnivenitia celestis exercitus, imnum gloria tua caecanimus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 and Dominus Deus
Thank you. Quoi peccator ignus?
Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Ave hemus specie qui salutaribus maniti et divina institutione formatio deemus dicere. Pater nostre qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Saecula saeculorum.
Amen.
Domine sexem per vobis cum.
Et cum spiritu tuo.
Thank you.
Confiteor Deorum Potenti, Beate Maria Semper Virginie, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tebicater, qui avec un divinis cogitationne et verbo et opere, Mea culpa, mea culpa, mea massima culpa, Ideo Precor Beata Mariam Semper Virginie, Beato Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Tebater, ora de promé ad Dominum Deum nostrum.
Sanctae potentiae usi de messis peccativis versus per de calvo salvitam terra.
Amen.
In Deo genitiam absolutionem, pensionem peccatorum vestum, tibuat vobis omnipotentiae misericordiae.
Amen.
Ecce Deo Dei, ecce cutamus peccata mundi,
Domine non sum dignus sum vitres ut et meum, Sed tantum di verbo et salvitur alma mea. Domine non sum dignus sum vitres ut et meum. Sed tantum di verbo et salvitur alma mea. Domine non sum dignus sum vitres ut et meum. Sed tantum di verbo et salvitur alma mea.
Tu aspetto per un petra verificabo che si amme.
Dominus nobis cum
et cum spiritu tuo
remus. Quo sceresi Domine alimentus satias di apostolicis intercessionibus et omni adversitate te custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum feium tuum acquite covete toi grat vitate spiritus sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus. Repetissimus Domine munieribus tuis, tribue quesumus, ut eum in mundemo effectum, moniamur auxilium, per Dominum nostrum Iesum Christum feium tuum, vite covite et regnat vitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.
Amen.